En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Avant de poursuivre l'enseignement, je voudrais vous rapporter un petit peu mon contact avec Khandro Rinpoche, que je suis allé voir à Paris pour l'inviter à Luce. Et bonsoir Isabelle.
Je ferme ma maribonne la porte. Oui, encore. Tu la laisses ouverte comme ça. Okay. Tu vois.
Et donc, je suis allé la voir à Paris, où elle enseignait tout un week-end, pour l'inviter à Luce. Elle est venue il y a déjà 3 ans à Luce. Et donc là, elle m'a dit oui, je vais faire en sorte de venir en 2017 à Luce. Voilà. Alors elle a donné un enseignement sur le week-end. Moi, j'ai assisté à 2 sessions. Et c'était intéressant. Bon, vous savez qu'elle est, ce qui la caractérise quand même, c'est d'être directe, on va dire comme ça. Et tout d'abord, elle a commencé par nous mettre en garde en disant il y a une tendance actuelle en Occident qui dégénère complètement le Dharma. Cette tendance, le mindfulness. Alors elle disait, c'est très bien le mindfulness à partir du moment où la méditation est enseignée, par exemple, dans les hôpitaux. Ça, c'est vraiment très bien. Ça peut apporter beaucoup d'apaisement aux personnes face à leur pathologie ou face à la pathologie d'un proche, etc. Donc ça, elle disait, c'est très bien. Elle dit, je mets déjà des doutes sur enseigner la méditation comme ça se fait maintenant de plus en plus dans les entreprises. Je ne sais pas si la motivation est très juste. Sous-entendu, pourquoi être concentré si ce n'est pour être efficace hein. C'est peut-être la motivation qui est derrière, quoi. Bon. Alors ensuite, elle dit, pourquoi je vous mets en garde contre ça, alors qu'elle n'a rien contre le mouvement mindfulness, mais les personnes qui le suivent, eh bien, disent maintenant, ça c'est le dharma occidental. Et c'est notamment le dharma laïque. Elle dit, le dharma, je suis désolé, ça ne se résume pas à la méditation. Il y a tout un cursus dans le dharma, il y a le vinaya, il y a l'abhidharma, il y a les sutras, il y a les tantras. Quand on suit le dharma, on doit appliquer, connaître l'ensemble du dharma. Elle dit, et c'est inquiétant parce qu'il y a des centres, il y en a un notamment, qui s'est complètement transformé, un centre tibétain en France, qui s'est complètement transformé en mindfulness. Et il dit maintenant qu'ils ne sont même plus un centre bouddhiste. Mais pour les gens, eh bien, il y a l'amalgame, quoi. Et alors que Christophe André a toujours dit qu'il n'enseignait pas le bouddhisme. Et que ceux qui voulaient s'intéresser, approfondir le bouddhisme, ils aillent dans un centre du dharma pour ça. Mais les gens, bon, ben voilà, maintenant on entend dire, oh oui, mais c'est ça maintenant, c'est le dharma en Occident qui se développe de cette façon-là. Et on ne peut pas résumer le dharma à cela, quoi. Donc elle disait, soyez prudents là-dessus, quoi. Alors je pense surtout qu'on était quelques lamas qui étaient là. On a le devoir de transmission, les lamas. Et pas seulement les lamas, tout pratiquant, en fait, a le devoir de transmission. On doit ressentir cette responsabilité de la transmission. Cette transmission nous est parvenue intacte du Tibet. Elle a été transmise pendant des siècles au Tibet. À nous de la garder intacte, même si on doit l'adapter à notre mode de vie, notre mode de pensée, à notre culture. Mais on doit garder tout ce que le Bouddha a enseigné. Il n'a pas enseigné seulement la méditation chinée, quoi. Voilà.
C'est même un très grand raccourci.
Ben oui, vraiment. Et puis, alors, la deuxième chose qu'elle... Alors là, elle a été très... Désolée, c'est moi. Oh, c'est les vacances. Hein. Je me lâche, c'est ça. Et elle a abordé un point en disant, il faut absolument que le dharma transforme votre esprit.
Ouais.
Alors elle disait, vous méditez depuis des années sur un coussin, est-ce que votre esprit est transformé? Non. Vous récitez des milliers de mantras, pas de transformation. Vous faites des centaines de prosternations depuis des années, pas de transformation. Et vous pensez que vous êtes pratiquant du dharma? Eh bien, vous n'êtes pas pratiquant du dharma, ce que vous faites, c'est carnaval. Elle a utilisé ce mot-là. C'est-à-dire, en fait, elle a expliqué après, vous avez les habits, vous avez les attitudes, les comportements, vous connaissez les rituels, vous faites de très jolis tormas, vous savez tenir votre cloche, votre damaru, etc. Donc, vous avez l'impression, eh bien, de très bien pratiquer, mais il n'y a pas de transformation de l'esprit, donc, eh bien, vous singez, mais vous ne pratiquez pas vraiment, parce que si on pratique, l'esprit, nos comportements doivent se transformer. Alors ça peut prendre du temps pour se transformer, mais on doit noter une transformation quand même petit à petit, quoi. Et ça, elle a vraiment insisté là-dessus. Elle disait, quoi que vous fassiez, observez votre esprit. Quand vous conduisez votre voiture, observez votre esprit. Quand vous mangez, quand vous marchez, observez votre esprit. Qu'il y ait toujours une part de l'esprit qui observe ce que vous faites. Qu'il soit conscient de ce que vous faites, de comment vous réagissez, etc. Et voilà, donc elle a beaucoup insisté là-dessus. Et vous la connaissez, elle a insisté en appuyant, quoi. Hein. C'était Khandro Rinpoche, cette femme Rinpoche, qui va venir à Luce en 2017. Voilà, voilà. Et j'étais allé à Paris pour l'inviter, et donc j'ai assisté à deux sessions de. Alors, j'ai voulu lui poser un piège, mais elle ne s'est pas laissée piéger. Je lui ai dit, mais ce serait bien quand vous viendrez à Luce de faire un cycle d'enseignement pour approfondir. Sous-entendu, comme ça, vous serez bien obligé de revenir régulièrement pour qu'il y ait une suite. Elle m'a regardé avec un sourire, elle m'a dit, la suite, c'est vous.
Et voilà.
Et voilà, donc, très bien. Mais elle a de l'expérience.
Elle a une clarté d'esprit.
Très bien. Là, par exemple, elle a expliqué, son enseignement, c'était sur les 8 consciences. Mm-hmm. Enfin, j'ai compris. C'était vraiment clair. Parce que c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué le sujet. Et elle disait, réaliser l'état de Bouddha, ce n'est absolument pas difficile. Il faut que notre esprit soit toujours dans l'instant présent, en train de... s'observant lui-même. Étant conscient de lui-même. Voilà. Elle dit, notre problème, c'est qu'on est toujours dans le passé ou dans le futur, rarement dans l'instant présent. Là, peut-être même que maintenant... Il y en a qui pensent à ce qu'ils vont manger tout à l'heure ou comment retrouver la voiture avec la fête de la musique, des choses comme ça, vous voyez. Et en fait, on n'est pas dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, eh bien, notre esprit peut encore se porter sur des choses extérieures que lui-même. Et elle dit, c'est pour ça que c'est difficile. Notre esprit ne demeure jamais en lui-même. Et si vous vous souvenez des instructions du Mahamudra que Tilopa a données au bord du Gange, ne pas penser, ne pas aller sur le passé, sur le futur. Bon, il y en a 5 comme ça, mais la 6e, c'est demeure en toi-même. Et demeure en toi-même, ça veut dire ça. Être conscient de l'instant présent, mais que la conscience soit consciente d'elle-même. Voilà. Elle dit, à partir de là, la nature de l'esprit s'éveille, quoi, se révèle. Donc c'est très clair, et elle donnait vraiment la méthode, comment faire. Bon, à nous de l'appliquer, quoi. Alors maintenant, la suite de l'enseignement, nous en sommes à la 3e strophe. Hein. Les 2 premières strophes des 37 pratiques, c'était d'abord hommage à la lignée, au maître. La 2e strophe, c'était est-ce que vraiment on veut réaliser l'éveil? Et après ça, si c'est oui, eh bien on s'engage sur le chemin. La première strophe, c'était prendre conscience de toutes les conditions qui nous sont nécessaires et que l'on réunit là encore aujourd'hui pour pratiquer le dharma. La 2e strophe, c'est ce qu'on voit ce soir. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, je vous la lis. L'attachement envers les amis et la famille s'écoule comme de l'eau. Les ennemis, que sont l'aversion et la haine, nous brûlent comme du feu. L'ignorance cause l'oubli de ce qui est à adopter et à abandonner. Quitter notre patrie sinistre est la pratique d'un bodhisattva. Alors, la patrie sinistre, tout de suite, il y en a qui pensent que la patrie sinistre. Notre patrie sinistre.
Ah oui, oui, notre.
Donc, ça ne veut pas dire quitter notre pays,
oui,
notre patrie.
C'est quitter
c'est notre, ce qu'il vient de oui. citer, c'est-à-dire l'attachement, la haine et l'obscurité, quoi. Oui. Donc Rinpoche dit bien, cette strophe semble vouloir dire que pour devenir un bodhisattva, nous devons quitter l'endroit où nous vivons, mais ce n'est pas le cas. Même si nous déménagions, cela ne ferait pas une grande différence. Par contre, la patrie sinistre, eh bien, c'est la confusion de notre esprit. Et ça, il faut quitter quoi, cette confusion. Quand vous quittez votre maison, vous ne mettez pas un pied dehors, et puis... garder l'autre dans la maison. Quand vous partez, quoi. Vous fermez la porte. Eh bien, c'est un peu cette image-là qu'on devrait développer dans notre esprit par rapport à la confusion de notre esprit. Il y a un jour, il faut fermer la porte, quoi. Et il faut quitter cette confusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus confus. Mais il y a une démarche à faire. Il y a un engagement à prendre. Et c'est ça le véritable renoncement dans le dharma. Quand on parle de renoncement, c'est renoncer à ces poisons de l'esprit. Alors, l'attachement, l'aversion ou la haine et l'opacité mentale, est-ce qu'on considère ces trois poisons comme vraiment des poisons? Et ça, nous devons observer. C'est-à-dire que pour être certain de les considérer comme un poison, à mon avis, nous devons bien étudier la confusion de notre esprit. Nous devons aller voir l'attachement et ne pas le fuir, ne pas en avoir peur, le rejeter. Nous devons aller voir l'aversion qui existe dans notre esprit et l'opacité aussi. Il faut savoir, je pense, profondément à quoi ça ressemble jusqu'à avoir la certitude que ce sont vraiment les poisons des poisons, et que ces poisons sont cause de souffrance pour nous et pour autrui. Le jour où ça va devenir clair dans notre esprit, le renoncement va vraiment s'établir. Mais tant que ce n'est pas clair, on négocie. Oui, bon, allez, ce soir, c'est pas grave, on verra demain, et puis voilà. Et c'est pour ça que les vœux existent. Et quand on parle des vœux dans le dharma, on pense toujours aux vœux de moine. Et ça, moi, je veux pas être moine, j'ai une famille, donc je veux pas faire... Je ne vais pas faire nonne ou pas faire moine, donc les vœux ne me concernent pas. Je suis désolé, il y a les vœux de fidèles laïcs. Hein. Ça, vous n'y échappez pas, hein, ils sont pour vous. Hein. Alors les vœux de fidèles laïcs, il y a le vœu de ne pas tuer, même un animal, toujours avec la motivation de tuer. Hein. Mais si vous écrasez une bestiole en voiture tout à l'heure, c'est pas tuer. C'est le tuer, mais il n'y a pas la motivation de le faire. Ne pas voler. Hein? Alors voler, c'est ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné. C'est plus large hein, que d'aller faire une banque. Quoi. Ne pas mentir, toujours avec la motivation de blesser l'autre, de tromper l'autre. Parce qu'il peut y avoir aussi des situations où il est préférable eh bien, de ne pas dire la vérité à la personne. Si la vérité peut vraiment la froisser ou la blesser, hein, pensez à une personne très malade ou une personne en fin de vie qui n'accepte pas du tout sa condition, c'est peut-être pas une œuvre de compassion que d'aller lui dire « si, t'en as plus que pour 3 jours hein. ». Voilà. Ne pas avoir d'inconduite sexuelle, c'est-à-dire ne pas créer de la souffrance par notre conduite sexuelle, et puis ne pas absorber d'intoxicants. Alors, les intoxicants, on voit tout de suite l'alcool. Mais il y a plein d'autres formes d'intoxicants. Le tabac, notamment, ce n'est pas recommandé pour le Vajrayana, hein, loin de là. Ça bouche les canaux. Voilà. La fumette, tout ça. Hein. Il y a une anecdote, bon, je ne sais pas si c'est bien enregistré, mais il y a une anecdote. Il y a une anecdote d'un jeune à Kaguling qui fumait des joints toute la journée. Et il est allé à Sonada, il a vu Sudama Nyingmapa, qui est mort là récemment à 95 ans, Chatral Rinpoche, il a une grande barbe, etc. Et Chatral Rinpoche, quand ce mec est entré dans le temple, il a tout de suite vu à qui il avait affaire. Il s'est levé et il l'a pris par le colbac et il l'a jeté hors du temple devant tout le monde, en lui disant: avec ce que tu te ingurgites dans le corps, tu es un véritable poison, hors du temple. Alors bon, après il est revenu, etc. Et il a fini par prendre les vœux. Et vous ne devinerez jamais comment il s'est appelé. Tarpé. Le verlan de pétard. Lui qui fumait toute la journée, qui fumait des joints. Il s'appelle Tarpé. Il s'appelle encore Tarpé. C'est vraiment très drôle.
Ah, c'est drôle.
Enfin voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais voilà pour les intoxicants. En sachant que les intoxicants, il faut, c'est toujours dit avec attachement. C'est-à-dire que si vous êtes invité chez quelqu'un et que vraiment la personne met un point d'honneur à vous offrir un très bon vin, si vous en prenez un verre, ça va quoi.
Vous pouvez accepter.
Voilà. Mais faut être conscient que...
Ouais, oui.
Parce qu'il y a cette histoire au temps du Bouddha, hein, qui ne minimise pas du tout ce vœu-là, parce que c'était un jeune moine, un jour, qui est invité à dîner chez une courtisane, je crois, et elle ferme la porte, et elle lui dit: maintenant, voilà, tu as le choix entre trois choses: faire l'amour avec moi, tuer la chèvre, ou boire de l'alcool. Alors il disait: faire l'amour avec vous, ben non, j'ai le vœu de chasteté. Tuer la chèvre, c'est vraiment un acte le plus négatif. Donc il a considéré que boire de l'alcool, c'était moindre. Donc il en a bu, mais tellement bu, qu'il a fait l'amour et il a tué la chèvre. Donc voilà. Donc, alors que dire, Rinpoché? Nous devons voir que l'aversion, la soif et l'ignorance sont les causes fondamentales de toutes nos souffrances. Et nous devons trouver des manières de dissoudre la solidité de notre haine, de notre soif et de notre ignorance qui en sont les racines. Tout ce que nous pouvons faire pour réduire leur impact, ne serait-ce qu'un peu, constitue la pratique authentique d'un bodhisattva. C'est son mode de vie, dit Rinpoché. Bon, ça résume en fait le mode de vie du bodhisattva. Mais je crois que sincèrement, on ne peut pas renoncer à quelque chose si on ne considère pas ce quelque chose-là comme un véritable poison, quoi. Ou alors se dire, j'ai une addiction pour telle tendance, eh bien je dois me protéger aussi des circonstances qui vont favoriser cette addiction. C'est comme si vous voulez arrêter de boire, mais que vous travaillez dans un bar, quoi. Ça va pas, quoi. Hein, franchement. Donc, il y a un deuxième sens à la patrie sinistre. Rinpoche dit, le conseil est de rester à l'écart des lieux, des situations et des imbroglios qui impliquent beaucoup d'agressivité et d'attachement. Et on parle beaucoup de l'attachement et de l'aversion, hein, mais il y a aussi l'opacité mentale. Parce que l'opacité mentale, c'est l'oubli. L'oubli des instructions. L'oubli de ce qui est à abandonner et ce qui est à adopter. Et quand Rinpoche revenait là-dessus, elle disait, ben, c'est parce qu'on oublie constamment de rester présent dans notre conscience, dans l'instant présent, eh bien qu'on s'égare à droite et à gauche, et on est en fait toujours ailleurs, et ça c'est dû à l'opacité mentale. Donc c'est un voile, l'opacité mentale, c'est pas un voile moindre que l'aversion et l'attachement. C'est plus subtil, ça éclabousse moins les autres que l'attachement et l'aversion. Mais c'est vraiment un gros voile, quoi. Donc il ne faut pas le négliger. Il faut vraiment travailler sur ces trois voiles, quoi, en fait. Donc cette strophe ne nous enseigne pas directement à faire face au poison de l'esprit, mais elle nous conseille d'être vigilants et de ne pas nous impliquer dans des situations qui nous plongent trop profondément sous leur emprise. Nous sommes tellement déterminés par les circonstances que nous pourrions aisément subir les influences négatives. Tandis qu'un grand pratiquant peut faire face à n'importe quoi, un débutant doit se montrer prudent et éviter les situations pleines d'émotions négatives. Ben oui. Voilà. Et ça, nous devons savoir où nous en sommes, quelles sont les tendances que nous avons dans notre esprit et quelles sont leurs puissances aussi. Et à partir de là, établir, autant que faire se peut, un mode de vie qui va éviter les contacts, les situations qui vont développer eh bien, ces tendances. Une fois que l'esprit sera très fort, hein, très dompté, et que rien ne viendra l'ébranler, on pourra se retrouver dans toutes les situations possibles et imaginables, l'esprit restera stable. Mais tant qu'il est fragile, qu'il est en apprentissage, on va dire, il ne faut pas tenter le diable. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors la troisième strophe, c'est une strophe qui est en rapport avec la deuxième. En abandonnant les lieux néfastes, les poisons diminueront progressivement. En se libérant de la distraction, la richesse de la vertu s'accroîtra naturellement. Par une conscience claire, naît la conviction ferme en le dharma, s'en remettre à la solitude et donc la pratique de Bodhisattva. Alors quand le texte dit « en abandonnant les lieux néfastes, les poisons diminueront progressivement », ça, nous devons en faire l'expérience. Ce n'est pas parce que c'est dit dans le texte que c'est sûr, mais nous devons en faire l'expérience. En abandonnant les lieux néfastes, alors à chacun de déterminer quels sont les lieux néfastes. Et c'est clair quand même, on a tous expérimenté, que si on abandonne telle ou telle circonstance, telle ou telle situation, eh bien, les poisons diminuent quand même. Voilà. En se libérant de la distraction, la richesse de la vertu s'accroîtra naturellement. Ben oui, parce que la distraction, c'est l'oubli dont on parlait tout à l'heure. Et si on n'oublie pas, hein, le drenpa qu'on appelle en tibétain, c'est-à-dire le rappel qu'on voit dans la méditation de Shiné, toujours le rappel, eh bien, avec ce rappel, la vertu s'accroît parce que la distraction diminue. Et ça, nous devons vraiment en faire l'expérience. Toutes ces techniques, toutes ces méthodes, toutes ces instructions, ça a été expérimenté par le Bouddha. Ça a été expérimenté par les maîtres. Et le Bouddha, s'il l'a enseigné, sait qu'il en a fait l'expérience et sait que ça fonctionne comme ça, quoi. À nous de, comme je dis souvent, à nous de valider les instructions du Bouddha. Mais si nous avons pris refuge, ça veut dire qu'il y a une confiance quand même dans ces instructions. Donc nous devons les appliquer jusqu'à ce que cette certitude naisse, et elle naît à partir de l'expérience. Une fois qu'elle est née, alors ça, elle est là, et on sait que ces instructions eh bien, sont correctes, et qu'on peut vraiment les appliquer. Par une conscience claire, naît la conviction ferme en le dharma. Par une conscience claire, naît la conviction ferme en le dharma. Ben, c'est par le dharma que l'expérience de la conscience, du calme de la conscience, par exemple dans un premier temps, mais de la nature de la conscience aussi, ou la nature de l'esprit, ça peut être expérimenté. Quand on commence à expérimenter ça, alors il y a une confiance absolue dans le dharma. On n'a plus de doute dans le dharma. C'est bien d'avoir des doutes au début, c'est normal, je dirais. C'est vraiment normal. Mais notre pratique, elle va dissiper ces doutes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'expérience naît. Et à partir de l'expérience, ben, on sait que le dharma, c'est quelque chose de qui fonctionne, je veux dire ça. Moi, c'est pour tout vous dire, c'est cet élément-là qui a fait que je suis entré dans le dharma. Que je suis entré dans le dharma. Je cherchais une voie. Et l'enseignement du Bouddha, sa vie, ce qu'il avait enseigné, les quatre nobles vérités, ça me paraissait accessible, ça me paraissait logique et compréhensible. Bien. Mais vraiment, ce qui a fait le déclic, c'est quand j'ai rencontré Kalo Rinpoche. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai rien ressenti, c'était à Kagyu-Zong. On avait tout l'hiver à moins 10, il fallait peindre parce qu'il arrivait pour inaugurer le temple de Kagyu-Zong. Mais c'est quand je suis allé la première fois à Sonada, dans son monastère en Inde, et que je passais les après-midi entières à être assis à côté de son lit, puisqu'il était le lit, vous savez, chez les Tibétains, on roule les couvertures et puis ça fait des sièges, c'est un siège quoi. Et alors il passait ses après-midi à recevoir des gens, et quand il n'y avait personne, bah, il était là tout seul, il était là comme ça, et c'était ses mantras. Puis moi j'étais assis, parlais pas anglais, je parlais pas tibétain. La conversation, c'était réglé. Mais de temps en temps, il prenait une orange, alors il épluchait son orange, il m'en donnait la moitié, et puis voilà, on mangeait notre orange, on se regardait, on se faisait des sourires, on regardait, j'étais là comme ça. Et puis, mais par contre, quand il recevait des gens, tout ça, je voyais son attitude, je le regardais faire, quoi. Et je me rendais compte, il y avait une grande équanimité chez lui, comme on peut noter ça chez tous les Rinpoché. Mais une grande équanimité, c'est-à-dire que c'était sa nièce Drolkar qui venait et qui était un petit peu le gendarme dans la maison. Elle était un peu pète sec. Il était égal avec elle, de la même façon qu'il recevait une personne qui venait le visiter, etc. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose quand même qui s'est transformé chez ce bonhomme, quoi. Et c'est par sa pratique, par le dharma, eh bien, qu'il y a eu cette transformation. Donc là, j'ai vraiment ressenti profondément que, eh bien, si on le pratiquait, on pouvait transformer notre esprit aussi, quoi. C'est pas une méthode qui date de 2600 ans, et puis, depuis, ça s'est un peu éteint, et puis, non, il y a encore des gens aujourd'hui, eh bien, qui ont leur esprit transformé de par la pratique du dharma. Alors ça, je dis ça pourquoi ? Parce que quand il dit s'en remettre à la solitude et donc la pratique d'un bodhisattva, je dirais oui à la solitude et on verra pourquoi après, mais s'en remettre aussi à la sangha. La sangha, c'est un des trois joyaux. Et on se demande des fois pourquoi la sangha fait partie des trois joyaux. Mais parce que c'est inspirant, la sangha. Et on doit, alors peut-être pas tous les membres de la sangha, mais en tout cas, on doit aussi fréquenter les membres de la sangha qui nous inspirent et qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers notre pratique. Être toujours tout seul chez soi pour la pratique, vous savez, on s'essouffle. Hein. Donc, se retrouver de temps en temps pour pratiquer, même s'il n'y a pas le lama. Hein. Moi, c'est pour ça que dans beaucoup de chöling, maintenant, il y a une réunion hebdomadaire, juste une heure, toujours le même jour, parce que comme ça, les gens peuvent programmer, eh bien, tous les jeudis, il y a une heure de méditation, et quand ils peuvent, ben, ils y vont. Et tous disent, ouais, ça nous recharge un peu les batteries, parce que un mois sur l'autre mois, quelquefois, c'est un peu long pour maintenir la régularité dans la pratique. Voilà. Et ça, c'est la sangha. Regardez, quand on est près d'un Rinpoche, pendant 2-3 jours, notre esprit change. On est beaucoup moins attiré vers les mondanités qui aujourd'hui occupent 90% de notre intérêt, quoi. Donc il y a une influence quand même de la sangha. Et ça, il faut pas négliger. Une foi comme l'hindouisme prône ouvertement ça. C'est la pratique de satsang. Ils appellent ça satsang. Et ils le conseillent vraiment aux personnes, fréquenter eh bien les communautés, fréquenter les maîtres aussi surtout. Voilà. Et le texte dit, s'en remettre à la solitude est une pratique de bodhisattva. Il faut faire des temps de retraite. Je suis désolé, mais il n'y a pas une personne qui a réalisé la nature de l'esprit sans passer du temps en retraite. Et en retraite, c'est pas la retraite Club Med. Le mot retraite, ça définit bien ce que ça veut dire. C'est se mettre en retrait. Et je me mets en retrait de quoi ? Du corps, l'activité physique, de la parole et de la pensée. Être en retraite, c'est se mettre en retrait eh bien, de l'activité physique. Donc quand on est vraiment en retraite, on ne jardine pas, on ne brode pas, on ne bricole pas. On laisse tomber tout ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on ne cause pas non plus, surtout quand on est tout seul. Je sais bien qu'on peut parler aux mouches, mais la seule parole, eh bien, ça va être les mantras. C'est-à-dire, en fait, que tout notre... Le corps, la parole, et puis la pensée va être focalisée sur la pratique, sur la visualisation, par exemple, qu'on va maintenir pendant toute la session, et même pendant la post-session. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nos trois portes, corps, parole, esprit, tout est dans la pratique, dans le dharma. Et si vous n'avez que deux portes qui sont dans le dharma, mais que la troisième, mais complètement dans des mondanités, par exemple. Les paroles de ce qu'on a fait, les dernières vacances, le dernier film qu'on a vu, le dernier bouquin qu'on a lu, etc. Eh bien, tout le sens de la retraite est affaibli. Toutes les expériences de retraite, ça se casse la figure. Il faut que les trois portes soient en retrait de tout ça. C'est ce que veut dire demeurer dans la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire forcément aller passer 3 ans dans une grotte au fin fond de l'Himalaya. Si on a la possibilité, pourquoi pas. Mais la solitude, il faut la créer chez soi. Il faut se créer des parenthèses de solitude. Où il n'y a pas de téléphone, où, n'est-ce pas, où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le conjoint non plus. Si c'est pendant une heure, je m'isole pendant une heure. Eh bien, c'est mon espace solitude. Et là, pendant une heure, je peux mettre en retrait mes trois portes et être vraiment dans la pratique. Mais si vous allez vous isoler dans votre pièce de méditation, et puis il y a quand même le téléphone, puis que votre mari ou votre femme toque à la porte parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez voir votre pratique, quoi. Ça ne marche pas. Alors, il y en a qui se disent, oui, je ne peux pas aller à Luce, passer 15 jours tous les 3 mois, en retraite, etc. Oui. Mais on peut toujours trouver du temps et se mettre en solitude chez soi, quoi. Même si ce n'est pas très, très long, pas besoin que ce soit une demi-journée. Mais on peut trouver une demi-heure. On peut trouver une demi-heure. Et ça, c'est... Il faut prendre soin de ça, quoi. Parce que notre esprit en a besoin. Ça fait partie de la méthode. Ce n'est pas simplement étudier, mais c'est aussi pratiquer, quoi. Et au sujet de la solitude, eh bien, il y a un projet à Luce auquel je tiens vraiment. Il est temps maintenant qu'on ajoute au centre une autre dimension qui est celle d'un centre de retraite. Donc ça, on est en train de... Le conseil d'administration a accepté. Donc on est en train de faire des devis à droite et à gauche pour établir sur la parcelle qu'on a achetée récemment. Eh bien... un centre de retraite qui commencera par une cellule avec un bloc sanitaire. Et puis, ça sera l'occasion à des personnes qui ont la possibilité, qui veulent de temps en temps, passer une semaine, passer un mois, passer 6 mois, comme elles le veulent, pour leur pratique, mais vraiment dans un cadre de retraite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas contact avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'entrer avec sa tablette ou son téléphone, ça niette, quoi. Hein, ça sera un cadre de retraite. Et voilà, et on verra après comment ça évoluera. Mais dans un an, je pense que ce sera fait, quoi. Bon, là, on a 0 euro, hein, pour financer ça. Mais dès qu'on a choisi le devis et qu'on connaît le montant, bon, ça, c'est sûr que j'enverrai un courrier pour solliciter des dons, parce qu'il faudra bien pouvoir financer ça. Mais Kalo Rinpoche, et quand je parle de Kalo Rinpoche, c'est toujours le précédent Kalo Rinpoche, je ne connais pas bien le nouveau. Mais Kalo Rinpoche, il demandait 2 choses quand un centre se créait. Première chose, c'était de construire un stupa. Lui, c'était vraiment son truc. C'était l'esprit, c'est l'esprit éveillé, un stupa. Donc il disait, il n'y a pas d'obstacle quand il y a un stupa. Et la deuxième chose, c'était un centre de retraite. Partout où il est passé, il a créé des centres de retraite. Pour lui, c'était vraiment très, très important qu'on puisse goûter par une vie en retraite, même pas très longue, mais qu'on puisse avoir les conditions pour goûter à la pratique, aux fruits de la pratique. Tant que les fruits ne sont pas là, il faut continuer. Donc ce sont des conditions, en fait, pour pratiquer en accéléré, si vous voulez. C'est du condensé, être en retraite. Et il ne faut pas avoir... comment ?
Stage intensif.
Et il ne faut absolument pas avoir peur de ça. Il ne faut absolument pas craindre ça. Non. Si vous êtes bien dans votre pratique, vous faites des pauses, voilà, mais vous pouvez vraiment méditer de 5h à 21h et être dans votre pratique toute la journée. Et vous verrez, le temps passe très vite en plus. C'est curieux. Enfin voilà. Alors, que dire Rinpoche là-dessus ? Il dit pas grand-chose. Il dit « Cette strophe décrit le type de lieu et de situation les plus propices à la diminution des réactions négatives et au renforcement des qualités positives. C'est un conseil pratique car en tant que débutants, nous sommes fortement influencés par notre environnement et les situations que nous vivons. Donc il est recommandé de saisir toutes les opportunités de se retirer dans la solitude, pas seulement au sens extérieur, mais également au sens intérieur. Quand nous parvenons à rester seuls, à la fois mentalement et physiquement, et que nous utilisons des techniques méditatives pour rendre notre esprit clair et paisible, nos afflictions vont diminuer progressivement. Une fois que nous aurons quitté les situations défavorables dans lesquelles nous sommes pris par l'aversion, la soif et l'ignorance, il ne sera plus aisé de faire face au poison de l'esprit. Il y aura moins de distractions et les activités saines s'accroîtront naturellement. Avec moins de distractions et d'émotions négatives, l'esprit deviendra plus pur, la conscience claire et la confiance en le dharma naîtront. Pour cette raison, les débutants sur la voie du bodhisattva devraient s'entraîner dans la solitude, dit Rinpoche, saisissant toutes les opportunités de pratiquer en retraite. Quand nous sentons que nous devenons fortement engagés dans la négativité, nous devrions essayer, autant que notre temps nous le permet, de nous retirer de cette situation et d'aller pratiquer en un lieu solitaire. De cette manière, nous trouverons le repos et une certaine distance vis-à-vis des imbroglios néfastes. Il y a, je ne sais plus si c'est à Luce ou je ne sais plus où, j'ai entendu récemment Rinpoche parler des burn-out. Il a dit oui, il y en a de plus en plus. Alors c'est dû, oui, aux circonstances extérieures, mais principalement c'est dû à comment la personne réagit par rapport, fait face à ces situations-là. L'extérieur a sa part de responsabilité, je suis bien d'accord. Quand on vous met la pression toute la journée, hein, ça doit être dur à gérer. Mais il y a aussi comment notre esprit vit la situation. Et c'est incroyable, je me rends compte que des gens qui ont des burn-out aujourd'hui. Il y en a, mais partout, quoi. On a l'impression qu'il y a une saturation de tout et qu'à un moment donné, on ne peut plus répondre à quoi que ce soit, quoi. Le moindre petit truc, mais ce qu'il faut faire, prendre sa voiture pour aller faire des courses, c'est un stress et une angoisse monte. Et la personne ne peut pas bouger, quoi. Il faut absolument éviter d'en arriver là, quoi. Et je pense que là, notre pratique peut vraiment nous aider. Alors voilà, on s'arrêtera là ce soir parce que la quatrième strophe, il y en a vraiment long à dire. Donc ça, on verra ça en septembre. Mais essayez pendant cet été de... Même si c'est bien de se détendre et de... Mais, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'avoir cette conscience de ce qui se passe en elle-même, quoi, dans votre esprit. Dès que vous sentez... Vous savez, dans le dernier livre qui a été traduit en français, Chevaucher la tempête, et c'est un livre sur les maras, c'est un enseignement que développe Ringo Rinpoche sur les maras, c'est-à-dire les obstacles. Il y a les maras extérieurs, intérieurs, secrets, top secrets. Et il y a tous les antidotes. Il explique vraiment tous les antidotes. Et pourquoi je dis ça ?
Par rapport à l'observation de l'esprit.
On est en vacances, Béa.
On est en vacances.
Ouais. Pendant l'été.
Pourquoi je parle de ce livre ? Oui. J'ai perdu le fil, là. Mais, oui. Pourquoi c'est un très bon bouquin, je sais, parce que... non, parce que vraiment, il y a deux pages, par exemple, sur la clarté de l'esprit. J'ai jamais rien lu de quelque chose sur la clarté de l'esprit aussi clair. mais vraiment, quoi. Et là, mais vous comprenez, quoi, vraiment. Ah si, voilà ce que je voulais dire. C'est justement à partir de là. Il dit, les émotions, on en aura tout le temps. Le Dalai Lama pique des colères. C'est bien de savoir. Parce que quand on en pique une, mais ça passe en une seconde, en 10 secondes. Ça ne reste absolument pas. Il prend l'exemple du Dalai Lama qui avait perdu un proche. Et moi, j'étais à Dharamsala quand il a perdu son jeune frère. Et j'ai demandé à sa sœur, Mrs. Pema Galpo, parce que j'allais souvent boire le thé avec elle à TCV School, et je lui dis, est-ce que je peux voir sa sainteté ? Elle me répond, non, pas aujourd'hui. On vient de perdre notre jeune frère. Sa santé est très affectée. En repartant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'un Bouddha soit affecté, quoi. Parce que moi, j'avais l'idée qu'un Bouddha, c'était quelqu'un, un anesthésié, quoi. Ouais. Et ben non, il était affecté. Seulement, dit Rinpoche, quand le Dalai Lama a eu un deuil, il est affecté. Mais cette peine, ça ne dure pas. On peut voir, une heure après, il est en train de rire avec des gens. Vous voyez, il n'y a pas de trace dans ce qui s'élève dans son esprit. C'est-à-dire qu'il lâche, qu'il lâche, qu'il lâche à chaque élément, chaque phénomène qui s'élève. Nous, on saisit tout. Alors, trois jours après, on est encore là, comme ça, bien crispé, bien tendu, bien stressé, etc. Donc, voilà, essayez de pas trop saisir. Dès que vous voyez qu'il y a une saisie, n'en faites surtout pas une histoire.
Oui, c'est ça aussi.
Mais non, le fait d'avoir de la colère, après tout, comme on disait une fois, elle est légitime, cette colère. Il y a des conditions qui font qu'elle s'élève. Mais après, c'est que ce que l'on en fait, quoi. Et ça, ça nous appartient. Voilà.
C'est ça qui est difficile dans l'observation de l'esprit, c'est qu'on observe des choses pas bien du tout. Alors, on veut les rejeter quand même. Enfin, c'est, oui. Au lieu de les laisser passer, je trouve que c'est... Là, c'est un moment très difficile.
Oui, mais si on les rejette, on est dans l'aversion.
Oui, oui, oui. D'être... voilà, d'être neutre par rapport à ce qui se passe.
Et je crois que pour pouvoir laisser passer l'aversion, quelque chose dont on a peur, qu'on rejette, etc., il faut accepter d'avoir ça. Il faut l'accepter. Se dire, mais ce n'est pas un problème si j'ai ça. Et faire l'expérience que si je la laisse passer, eh bien, cette colère n'est pas un problème en elle-même. Donc, c'est la transformer et la transformer en fait en amie. Elle n'est pas gênante, mais j'ai pas envie de te recevoir maintenant, quoi. Des questions sur ça, sur votre pratique, sur... On avait dit ça un jour à Rinpoche qui était venu en centre de retraite. Il a dit, voyez les pensées, ça passe, ça vient, ça passe.
C'est ça.
Donc voilà. Bon, si elle revient en cours de soirée, vous la reposerez. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre présence au Chuling. Ils ne sont pas là, mais merci à Bernadette et François. À Geneviève et Johan aussi qui prennent le relais quand ils ne peuvent pas, à vous qui enregistrez, à Marie-Vonne qui nous reçoit ce soir, Marie-Vonne et Henri qui nous reçoivent ce soir. Il y a une belle dynamique et harmonie dans le tuning, je trouve. Donc, avec plaisir, je vous retrouverai en septembre.
Merci.
Merci. Merci bien.
On remercie d'avoir la chance d'avoir un enseignement régulier.
Oui. Les Chuling ont été fondés pour ça. Hein.
Ah oui, c'est vraiment un privilège.
Parce que je trouvais que c'était bien que les gens puissent avoir une régularité dans leur, à la fois dans l'enseignement et dans la pratique, au moins une fois par mois, là où ils vivent, là où ils travaillent, etc. Alors c'est clair, c'est moi qui fais des kilomètres, mais voilà. Ça va encore.
Tu vois du paysage.
Donc, exactement. Oui, mais c'est bon, c'est bien.
Le paysage du tunnel.
Bon, Colmar, c'est pas très loin, ça va.
Non, c'est quand tu vas à Pont-à-Mousson.
Non, c'est fini, Pont-à-Mousson. On n'y va plus. Ouais. La dernière fois que j'y suis allé, les trois dernières fois, il y avait 3-4 personnes. Et la dernière fois que j'y suis allé, il y avait vraiment de la neige. Ça a été galère pour y aller. Hein. Ouais. C'était avec moi. On est arrivé, il y avait 3 personnes. Ouais. Et là, les 3 personnes, sans que je dise quoi que ce soit, les 3 personnes ont dit, c'est la dernière fois ce soir.
Ouais.
Ils sont à une petite demi-heure de Nancy. Donc, il y en a qui viennent au tuning de Nancy. Quoi. Ouais. Nous, ça nous fait presque 2 heures, vous voyez, 2 heures de route. Bon. Donc, voilà. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.